Bonjour à tous, à toutes, j'espère que vous allez bien. Est-ce que c'est possible de mettre le passage de Matthieu 20, s'il vous plaît? Voilà. Alors, je vais lire, je ne sais pas si c'est, ouais, ça doit être la même version. Donc, je vais lire le passage de Matthieu 20. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, Que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que dans ton royaume mes deux fils que voici soient assis l'un à ta droite et l'un et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, Vous ne savez pas ce que vous demandez, pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Nous pouvons, dirent-ils. Il leur répondit, Vous boirez en effet ma coupe, mais quant à être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux pour qui mon Père l'a préparé. Alors, après avoir entendu cela, les dix autres furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et leur dit, Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles et que les grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce ne sera pas le cas au milieu de vous, mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Jusqu'ici, la parole du Seigneur, prie avec moi. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce que tu nous as laissé pour que l'on puisse vivre selon tes pas, selon tes commandements, Seigneur. Et je te prie que tu puisses ouvrir nos esprits, nos cœurs, afin que l'on puisse être changé, transformé et encouragé par ta parole, Seigneur. Et je te prie vraiment pour les gens qui en ont besoin, que tu puisses aider vraiment chacun d'entre nous à mettre ça en concret, être une lumière autour de nous. Amen. Alors, donc on continue notre série sur les habitudes de la grâce. Le mois dernier, si vous étiez avec moi, on a parlé du jeûne. Et donc, on a parlé de l'adoration collective, la prière, la lecture de la parole, le sabbat, le repos et le jeûne. Et donc, aujourd'hui, en fait, on a évoqué toutes ces habitudes parce que je vous ai dit qu'il était vraiment primordial et crucial pour nous, en tant que chrétiens, en tant que croyants, en tant que disciples de Christ, de mettre en pratique, d'incorporer ces pratiques dans notre liturgie quotidienne pour être en bonne santé spirituelle. C'est le but, pour chacun d'entre nous, c'est d'être en bonne santé spirituelle afin d'avoir une église en bonne santé spirituelle. Et donc, quand on parle de bonne santé spirituelle, on parle aussi de croissance spirituelle, afin de grandir, afin de croître. Et donc, j'ai envie de ce matin, enfin cet après-midi, de m'attarder sur cette notion de grandeur. Et donc, notre passage de Matthieu 20 ici et rentre dans la lignée d'une autre conversation dans Matthieu 18, où il y a les disciples de Jésus qui demandent à leur maître, Maître, qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux? Et en fait, dans cette conversation de Matthieu 18, on a plus d'informations dans Marc 9. Et en fait, les disciples, ils étaient en train de débattre à savoir qui était le plus grand disciple entre eux. Déjà, c'est une question un peu bizarre. Imaginez-vous, vous retrouvez tout dimanche et vous dites, c'est qui le meilleur croyant d'entre nous, le meilleur disciple d'entre nous? Ce serait bizarre, non? Et pourtant, c'est le débat qu'ils ont eu, les disciples entre eux. Et donc, dans Marc 9, il est relaté que Jésus leur demanda, De quoi discutiez-vous en chemin? Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Et ce qui est intéressant, c'est que dans notre société, dans les médias, les gens, ils aiment débattre pour comparer qui est, par exemple, le plus grand président, qui est meilleur entre Ronaldo et Messi, qui est meilleur entre Federer et Nadal. Et il y a même eu, je ne sais pas si vous avez un peu suivi l'histoire de Kanye West, avec sa récente conversion en Christ. Et même Kanye West a proclamé être le plus grand artiste de tous les temps. Donc, c'est dire que chacun a vraiment a sa propre idée de ce qu'est la grandeur. Et on a tous, nous-mêmes cette, un concept de ce qu'est la grandeur ou de ce que ça devrait représenter. Et pourtant, ce dialogue dans Matthieu 20 nous montre que Jésus est tellement, tellement, tellement différent des autres leaders. Il pense tellement différemment de nous en tant qu'êtres humains que nous, dans notre société dans laquelle on vit. Et ce passage nous montre à quel point l'Évangile va à contre-courant de nos valeurs humaines. Et donc, cet après-midi, ce passage, je vais le diviser en trois parties. Premièrement, je vais parler de la poursuite de la grandeur. Ensuite, je vais parler du paradoxe de la grandeur. Et enfin, je vais conclure par la pratique. Poursuite, paradoxe et pratique. Donc, je vais commencer par la poursuite. Lisez avec moi les versets 20 à 21. Alors, la mère des fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu ?» Ordonne, lui dit-elle, que dans ton royaume, mes deux fils que voici soient assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Et donc ici, la mère de Jacques et de Jean fait une requête qui est assez audacieuse. Elle voulait que ses fils, en tant que disciples de Christ, soient honorés aux côtés de Jésus lorsque celui-ci va régner dans son royaume. Et c'était ça pour eux, leur poursuite personnelle de grandeur. Une fois de plus, on a tous chacun une certaine idée de ce qu'est la grandeur. Et donc, si on est honnête aussi avec soi, je pense qu'on aspire tous à être considérés comme grands, d'une certaine manière. Dans le sens où on veut être le meilleur, on veut être le mieux, on fait que l'on puisse faire le mieux que l'on puisse faire dans notre domaine. Et même si on sait qu'on ne sera jamais le meilleur, je sais pas moi, le meilleur chrétien, le meilleur théologien, le meilleur pasteur, le meilleur disciple de Christ, mais du moins, on aspire à vouloir être meilleur que l'autre. Peut-être pas dans la vie chrétienne, mais peut-être dans d'autres domaines, comme ça peut être dans notre travail, dans un certain sport, dans notre passion ou pour une compétence plus spécifique. Et donc, nous, on vit dans une culture d'expertise qui fait que on est tous catégorisés dans un domaine spécifique parce que notre éducation, notre société nous donne justement une trajectoire pour que l'on puisse se spécialiser. Et le système, par exemple, scolaire, fait que lorsque on étudie, on apprend, on acquiert des connaissances de manière consumériste dans le sens où on a toutes ces choses-là pour être préparé, dédié et équipé dans un domaine spécifique lorsque l'on rentre dans le marché du travail. Et c'est ce qui fait que notre système scolaire fait qu'on est centré sur soi-même dans le but de devenir le meilleur lorsque, une fois de plus, on rentre sur le marché du travail. Et aussi de se différencier par rapport aux autres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une différence entre être bon dans ce que l'on fait et être le meilleur dans ce que l'on fait. Et c'est une petite différence parfois que l'on ne soupçonne pas. Qu'est-ce que je veux dire par là ? En fait, il y a un consultant américain qui s'appelle Jim Collins qui a écrit un livre qui s'appelle « De la performance à l'excellence ». Et en fait, ce consultant est spécialisé dans la croissance des entreprises. Et en fait, dans son livre « De la performance à l'excellence », il a fait une étude sur les grandes entreprises qui, au départ, étaient de simples entreprises comme n'importe quelle entreprise, qui étaient de bonnes entreprises. Et il a collecté différentes données pour voir ce qui a fait que ces bonnes entreprises qui faisaient du bon chiffre d'affaires sont devenues de grandes entreprises avec une forte croissance, etc., etc. Et en fait, il a remarqué qu'il y avait un point de bascule dans leur justement changement de statut de bonne à grande entreprise. Et il a découvert une chose. Le point de bascule s'est opéré lorsque les dirigeants de ces entreprises ont eu une prise de conscience. Quelle prise de conscience, vous allez me demander? En fait, ils se sont rendus compte qu'il fallait arrêter de regarder que de regarder sur soi, mais aussi de se tourner vers l'extérieur, dans le sens où les dirigeants de ces entreprises-là n'en faisaient qu'à à leur vision, à leur stratégie, à leur mission, Et au contraire, ils se sont tournés vers ce que faisaient les autres et ont acquis des connaissances pour justement mieux se développer et devenir justement une grande entreprise. Et en fait, dans son enseignement à ses disciples, c'est exactement ce que Jésus inculque à ses disciples tout au long de leurs 3 années de discipulat. C'est-à-dire d'arrêter de regarder sur soi, mais de se tourner vers l'extérieur et de vraiment prendre soin des autres. Quand on parle de grandeur, on parle de toujours gagner plus ou d'aller plus haut aux dépens des autres. Parce qu'on a un désir d'être connu, reconnu pour qui on est et pour ce que l'on fait. C'est une partie intégrante de notre partie humaine. Tout comme Jacques et Jean voulaient avoir l'approbation de Jésus et d'être considérés comme les plus grands disciples, et ce qui est frappant par contre, c'est la réponse de leur maître qui est frappante et surprenante. Et c'est ce qui nous mène à notre deuxième point, le paradoxe de la grandeur. Lisez avec moi les versets 22 à 23. Jésus répondit: Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Il leur répondit: Vous boirez en effet ma coupe, mais quant à être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux pour qui mon Père l'a préparé. En fait, Jésus leur répond d'une manière, par une sorte d'avertissement, en leur demandant s'ils sont prêts à boire la coupe que lui-même s'apprête à boire. Et dans leur naïveté et dans leur ignorance, les deux frères répondent positivement, parce qu'ils ne savaient pas ce dont Jésus était en train de parler. Jésus, lui, devait boire la coupe de la colère et du jugement de Dieu, tandis que les disciples, eux, allaient boire la coupe de la grâce, de la guérison et de la rédemption pourvue justement par Jésus. Et aussi ensuite au verset 24. Après avoir entendu cela, les 10 autres furent indignés contre les deux frères. Et les 10 autres disciples eux-mêmes n'avaient pas compris le sens des mots de Jésus, pensant que les deux frères auront une place particulière parce qu'ils ont affirmé positivement pouvoir boire la coupe que Jésus allait boire. Mais en fait, ils étaient complètement à côté de la plaque. Ils voulaient avoir une place de choix en pensant donner la bonne réponse à Jésus, mais en fait, ils n'avaient vraiment pas saisi le sens de cette coupe. Ils avaient une certaine idée, un certain concept de ce que représente la grandeur, comme nous, on a une certaine idée de ce que représente la grandeur, mais en fait, notre concept de grandeur est totalement erroné, comme c'était le cas pour les disciples. Une fois de plus, nous, on pense en tant qu'être humain que la grandeur passe par une mobilité ascendante personnelle pour aller plus haut, plus loin, plus vite. Mais ici, Jésus redéfinit la notion de grandeur qui passe par une mobilité descendante tournée vers les autres. Lisez avec moi versets 25 à 27. Jésus les appela et leur dit: Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles et que les grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce ne sera pas le cas au milieu de vous, mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Tout ce que nous, on pense et on conçoit sur la grandeur, Jésus ici le redéfinit entièrement. Être grand dans ce monde, c'est dominer et avoir le pouvoir. Être grand dans le royaume de Dieu, c'est servir et être esclave des autres. C'est une différence qui est tellement énorme. Notre société dans laquelle on vit nous dit que la grandeur passe de statut, mais Jésus, lui, nous dit clairement que selon ses critères à lui, selon les critères du royaume de Dieu, cela passe par le service et le dévouement aux autres. Une fois de plus, c'est vraiment deux visions qui sont radicalement opposées. Et l'évangile va tellement à l'encontre de ce que l'on pense que ça va encore plus loin que ce que l'on peut imaginer. Verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Ici, l'expression « Fils de l'homme », c'est un titre qui est très important à l'égard de Jésus. Certains l'attribuent à l'humanité de Jésus, mais en fait, c'est le contraire. Le titre « Fils de l'homme » confère à Jésus son statut divin et messianique. C'était vraiment réservé au Messie d'Israël comme c'était prophétisé dans le livre de Daniel. Et donc, ce titre « Fils de l'homme », qui désigne ici Jésus, lui confère des droits, des privilèges, en vertu de son statut divin et messianique. Et donc, en tant que tel, il doit être servi, puisqu'il est le roi, tout simplement, qui règne dans son royaume. Et pourtant, relisez avec moi le verset 28, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, et pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » On se dit, ok, Jésus, il vient sur terre et il ne veut pas qu'on le serve. Très bien, on laisse faire tranquillement dans sa vie. Mais non, ici, l'évangile va beaucoup plus loin dans son raisonnement. Jésus, il a le droit de dire qu'on ne le serve pas, mais là, il demande à ce que lui, le roi, le divin, le Messie, nous serve. Nous qui sommes censés le servir, lui. Et c'est ça le paradoxe de la grandeur, le paradoxe de grandeur dans l'évangile de Jésus et dans le royaume de Dieu. C'est un concept qui requiert service, don de soi et humilité. Vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans Matthieu 2, lors du récit de la naissance de Jésus, il y a un grand contraste entre deux rois, deux figures d'autorité, qui ont deux postures totalement différentes. Le premier roi, c'est le roi Hérode. Le second roi, c'est le roi Jésus. Avec Hérode, on voit dans Matthieu que c'est un roi qui est assoiffé par le pouvoir, qui a dû éliminer d'autres pour sécuriser son propre rang. Et il a dû tuer des autres pour vivre, pour asseoir sa légitimité. Et de l'autre côté, on a Jésus qui donne sa vie pour que d'autres aient leur rang sécurisé en Dieu. Et une fois de plus, c'est vraiment deux approches qui sont totalement, radicalement opposées. Par exemple, est-ce que vous imagineriez que Jeff Bezos, c'est l'homme le plus riche du monde, PDG de Microsoft, je crois que c'est Microsoft. Bref, c'est l'homme le plus riche de la planète. Ou la reine Elisabeth II d'Angleterre. Imaginez-vous qu'ils donnent tout matériellement ou même immatériellement pour servir les plus démunis de manière totalement désintéressée. Amazon, merci. Imaginez qu'ils donnent tout pour les plus démunis de manière justement totalement désintéressée. C'est inconcevable, ça ne se ferait pas. Et c'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle Jésus, lui, c'est un roi qui est digne d'être adoré et d'être loué et d'être exalté parce que c'est exactement ce qu'il a fait. Parce qu'il montre l'exemple. Si vous voulez toucher du doigt ce que ça veut dire d'être réellement grand, vous devez vous attacher justement à ce paradoxe de devenir l'esclave de l'autre et de vouloir servir son prochain, de servir les plus démunis. Parce que Jésus, lui, qui méritait qu'on le serve, est venu exprès pour nous servir, nous qui étions dans le besoin. Et en faisant cela, il nous a élevés, il nous a donné la rédemption. Et c'est la tension dans laquelle nous, on se trouve en tant qu'être humain. On a une certaine idée de ce qu'est la grandeur. Et à cause de Jésus qui donne un nouveau modèle à cette idée, on peine à le suivre parce qu'on a cette tendance de vouloir assouvir nos propres désirs, nos propres ambitions. Et c'est pour ça que c'est tellement compliqué et difficile en tant que chrétien et en tant qu'être humain, de mettre l'intérêt des autres avant les nôtres. Malheureusement, c'est la tendance de notre cœur, c'est comme ça. Tout tourne autour de notre ego, de soi, de notre vie. On veut s'auto-promouvoir, on veut faire avancer notre propre cause, on veut prendre le crédit pour soi-même, on veut avoir une bonne image, on veut se construire notre propre nom. Et c'était aussi la tendance de Jacques et de Jean, c'était la tendance des 10 autres disciples, c'est notre tendance. Et c'est la raison pour laquelle Jésus demande à ce que si nous on veut être élevé, on ne sait pas ce que l'on veut. On est en train de demander. Parce que pour être considéré comme grand, il faut être un serviteur. Il faut être un esclave pour les autres. Et la question, c'est de savoir, est-ce qu'on est prêt à cela? Est-ce qu'on est prêt à s'humilier, à se sacrifier? On est prêt à abandonner nos droits? Et donc, ça, c'est le paradoxe de la grandeur. Comment mettre ça en pratique? Comment mettre ça en pratique? Lisez une fois de plus avec moi les versets 26 à 28. Ce ne sera pas le cas au milieu de vous, mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Ici, une fois de plus, dans cette partie, j'aimerais vous démontrer à quel point Jésus est tellement, tellement, tellement différent et va contre-courant. Il est tellement bon, il est tellement grand, notre Seigneur. Il n'est pas venu sur terre pour être servi, mais une fois de plus pour servir et donner sa vie en rançon, comme il le dit ici. Vous savez, ce mot rançon, ça nous est familier parce que on l'entend dans les films où il y a un kidnappeur qui demande une certaine somme d'argent pour libérer un otage. Et dans le contexte de Jésus, il s'agissait en effet d'un prix à payer pour libérer et racheter un esclave. Et comme je vous l'ai dit dans notre première partie, on est tous d'une certaine manière à la poursuite d'une certaine grandeur. À notre propre échelle, à notre propre niveau. Et donc, ce qui fait qu'on devient captif, on est asservi par cette quête de la grandeur. Parce que notre système nous pousse à cela, mais aussi parce que c'est notre tendance humaine, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, tout être humain a donc ce besoin vital d'être racheté parce qu'on est esclave de cette ambition de grandeur personnelle. Et pour être libre, on doit être racheté. Et c'est pour ça que ici dans ce texte, Jésus nous dit qu'il s'est fait esclave, lui, Fils de l'homme, à notre place, pour que on puisse être libéré. Il nous a servi, alors que nous, une fois de plus, on était censé nous servir, lui, le roi. Alors pourquoi servir afin de grandir? Pourquoi j'ai inclus le service dans les habitudes de la grâce? Pourquoi ça nous permettrait de grandir en tant que disciples de Christ pour avoir une maturité spirituelle? Sachez, le terme grec service signifie subvenir aux besoins les plus basiques et les plus vitaux à travers des actions concrètes. Et c'est à vrai dire la définition de base d'un diacre. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais les premiers diacres de l'Église primitive, on les retrouve dans Acte 6, lorsqu'il y a des hommes fidèles qui sont désignés par les apôtres pour servir les veuves hellénistes qui étaient défavorisées. Et donc, littéralement, servir, c'est vraiment nourrir une personne en la servant, comme le ferait de nos jours un serveur au restaurant. Et donc, je vais utiliser cette image du serveur parce que ça nous parle à notre contexte immédiat. Disons que si une personne, elle est ambitieuse professionnellement, son objectif, ce ne sera pas de devenir serveur. On est d'accord. Souvent, les serveurs, c'est un job d'étudiant, c'est un job qui n'est pas très bien payé en soi. Et pourtant, c'est pas, une fois de plus, c'est pas l'ambition professionnelle des gens. Au contraire, ceux qui veulent appartenir au plus grand dans ce monde veulent être servir, servi. Au contraire, ces gens-là veulent aller au restaurant pour être servis. Et pourtant, Jésus nous demande d'être serveurs, d'être des serveurs pour être considérés comme grands. Et lorsque on y pense, c'est juste inconcevable. Mais Jésus, lui, il l'a fait. Il l'a fait. Imaginez un instant la chose suivante. C'est juste un petit scénario qu'on va jouer. Imaginez-vous que vous êtes serveur dans un restaurant 3 étoiles. À Paris, il n'y a pas beaucoup de restaurants 3 étoiles. Mais, et donc, vous êtes serveur ou serveuse dans un resto 3 étoiles. Et ce soir-là, ben, il y a Emmanuel Macron, notre président, qui vient dîner à ce fameux restaurant. Et il est à table dans votre zone, donc c'est vous le serveur attitré du président Macron. Et donc, vous, en tant que serveur, vous savez exactement ce que vous devez faire, vous devez prendre soin de lui, vous devez être à son service. Imaginez un instant qu'il vous demande de prendre sa place et que lui va prendre notre place en échangeant les rôles pendant le temps de la soirée et qui fera en sorte que nous soyons servis. Évidemment, c'est quelque chose qui ne se passera jamais. Jamais le président Macron va vouloir inverser les rôles parce que c'est lui le grand de ce monde. Les grands de ce monde ne font jamais ce genre de choses. Eux s'attendent à être servis. Et pourtant, c'est plus ou moins ce que Jésus a fait lorsqu'il est venu sur terre. Il ne nous a pas servi le temps d'un dîner, mais il est venu nous servir toute sa vie afin que nous puissions festoyer, prendre du bon temps à ses côtés éternellement. Et il en a payé le prix. C'est lui qui en a payé le prix de sa propre poche. Vous savez, moi, je suis un foodie. Je rêve un jour d'aller dîner à l'Arpège, un restaurant 3 étoiles du chef Alain Passard. C'est un menu qui coûte 500 euros le dîner, sans le vin, bien sûr. Et donc, j'attends qu'un jour, une âme généreuse et bienveillante m'invite. Et à ce restaurant, mais ça reste un rêve. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque Christ, lui, il est venu sur terre, il est venu pour nous servir, pour payer toute notre dette, pour subvenir à un besoin vital, et il l'a fait d'une manière, d'un acte tellement généreux, incroyable, et il s'est donné de lui-même, il a tout payé de sa propre poche, il s'est sacrifié pour nous. Et donc, on lui doit une immense dette à cause de notre péché. Et Jésus, une fois de plus, l'a payé de sa propre poche, de sa propre vie. Il a payé à notre place et on est tellement, tellement endetté qu'on ne pourra jamais le rembourser. C'est impossible. Et donc, afin d'être au service des autres, afin d'être un serviteur, afin d'être un esclave, il faut pouvoir se protéger de deux dangers. Premièrement, c'est d'avoir une trop grande estime de soi. Et deuxièmement, d'avoir une trop petite estime de soi. Et ces deux aspects sont liés sur comment nous, on se perçoit sur notre propre personne. Ce qu'il faut, c'est de se voir tel que Dieu, lui, nous perçoit. Et comment est-ce que Dieu, lui, nous perçoit ? Je vais vous lire une citation du pasteur Tim Keller qui dit la chose suivante. Il dit « Nous sommes plus pécheurs et imparfaits qu'on oserait le croire. Nous sommes plus pécheurs et imparfaits qu'on oserait le croire. Et pourtant, nous sommes plus aimés et plus acceptés en Jésus qu'on oserait l'espérer. » Si on n'est pas conscient de l'énorme dette que Christ a payée pour nous libérer, On ne sera jamais en mesure de pardonner les personnes qui nous ont causé du tort, et encore moins de les servir. Et c'est pour ça qu'il est essentiel de comprendre la magnitude du prix payé pour notre péché afin d'être assez humble pour servir les autres. Et de l'autre côté, c'est essentiel de comprendre la magnitude du pardon que Dieu nous a accordé pour que nous puissions être remplis de joie et de reconnaissance pour servir les autres également. Je vais vous raconter une petite anecdote. Je ne sais pas si elle est vraie ou pas, mais c'est sur Alexandre le Grand. Un jour, donc, il y a un des généraux du grand empereur Alexandre le Grand qui vient le voir et qui lui demande une petite faveur. Il lui demande, est-ce que c'est possible d'emprunter de l'argent parce qu'il y a sa fille qui va bientôt se marier. Et donc, Alexandre le Grand lui accorde volontiers ce prêt. Et donc, il lui dit d'aller voir le comptable personnel. Et donc, le général va voir le comptable d'Alexandre le Grand et lui dit qu'il aimerait emprunter telle somme pour le mariage de sa fille et qu'il a obtenu justement la permission d'Alexandre le Grand. Et le comptable va donc voir Alexandre le Grand pour s'assurer qu'il a eu la permission et lui demande s'il connaît la somme demandée. Et Alexandre le Grand lui dit, mais c'est pas de souci, donne-lui l'emprunt. Et donc le comptable lui dit, mais c'est une somme qui est astronomique, t'es sûr? Et la réponse d'Alexandre le Grand est la suivante. Il dit à son comptable, en me demandant cette somme d'argent, il me fait deux compliments. Premièrement, il me complimente sur le fait que je suis riche. Et deuxièmement, il me complimente sur le fait que je suis généreux. Et à l'image de Jésus étant la rançon, c'est pratiquement pareil. C'est une chose de savoir que Dieu est riche, et c'est une deuxième chose de savoir que Dieu nous partage sa richesse avec nous. Et il l'a fait pour nous. Pourquoi? Parce que c'est de la nature de Dieu. Il est comme ça, il est bon, il est généreux. Il ne compte pas lorsqu'il donne. Il est venu vraiment pour nous servir, nous, donner sa vie en rançon. Il était le premier, il est le premier Jésus. Il était volontaire pour être le dernier. Ma question pour vous cet après-midi, c'est la suivante. Comment avez-vous servi? Qui avez-vous servi? On n'a pas besoin d'une compétence particulière pour servir. N'importe qui peut servir. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Rémi. Rémi, c'est le rat dans Ratatouille, qui est devenu ce grand chef de cuisine. Et ça dit, la devise de Rémi, c'était « n'importe qui peut cuisiner ». La devise de Dieu, c'est n'importe qui peut servir, d'une certaine manière. Une fois de plus, on a tous cette image de grandeur à l'esprit. Qui aurait cru que Rémi, le rat, devienne ce grand chef parisien? Après tout, personne, parce que c'est qu'un dessin animé, on est d'accord. Mais qui aurait cru que le créateur de l'univers donne sa vie pour des gens comme vous et comme moi? Servir, c'est un moyen de bénédiction, c'est un moyen de grâce, c'est un moyen qui nous fait grandir, nous, et c'est un moyen qui permet de d'édifier les autres. Ça fait quoi? Ça fait un mois qu'on est en confinement maintenant, on a encore un autre mois devant nous, et je pense que ce confinement, c'est un temps incroyable, justement, de mettre en pratique l'habitude de la grâce qui est le service. Par exemple, dans notre église, tous les mardis, on jeûne et on prie pour notre gouvernement. C'est un moyen de servir. On est aussi en train de mettre en place de faire chacun chez soi à manger à travers une association, pardon. Et il y a des gens qui viennent chercher chez nous les plats qu'on prépare et distribuent aux sans-abri. C'est juste des petits trucs, mais avec le confinement, on a le temps de faire ça. Comme on a le temps d'appeler un frère ou une sœur qui est confiné chez elle ou chez lui tout seul, qui se sent délaissé, ou peut-être que c'est aussi le temps d'appeler, envoyer un texto à des gens que vous n'avez pas parlé depuis un moment, C'est vraiment une belle opportunité, vraiment. Et servir, c'est vraiment très, très simple. On a tous des dons, on a tous des moyens, on a tous des compétences pour servir les autres. Et votre vie sera marquée par la grandeur, non pas parce que vous avez réussi de grandes choses sur Terre, parce que vous aurez accompli des choses incroyables, mais parce que vous aurez servi celles et ceux qui en ont eu besoin. Vous savez, sur la Terre, on peut faire plein de choses. Plein de choses qui fait qu'on peut être considéré comme quelqu'un de grand. Mais moi, ce qui m'intéresse en tant que croyant, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, c'est que lorsque j'aurai fini ma vie ici sur Terre et que ben, je ferai face au Seigneur, j'aurai envie que Dieu me dise, lui, mon Père, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Prie avec moi. Seigneur, merci pour pour ce passage de Matthieu. Merci parce qu'il nous a pu retransmettre ce dialogue que Jésus a eu avec ses disciples et avec la mère des disciples. Et tu nous rappelles à quel point tu es tellement différent, tu es tellement autre chose, Seigneur. Tu es tellement saint, tu es tellement mis à part, tu es hors tes catégories, Seigneur. Et ta vision des choses est radicalement opposée de ce que nous, on nous inculque. Et je te demande que tu puisses nous aider à vraiment à intégrer les valeurs du royaume, de ton royaume, pour que nous puissions être des lumières, que l'on puisse être le sel ici sur terre, que l'on puisse donner un goût différent à la vie des autres en te prêchant, en évangélisant, en proclamant ton nom, parce que tu es tellement bon, tu es tellement généreux, tu es tellement plein de grâce. Et merci vraiment pour ce que tu as fait à la croix et l'espérance que tu donnes parce que tu as ressuscité, parce que tu es revenu de la mort, tu as vaincu la mort en ressuscitant, Seigneur. Et cela nous donne vraiment cet espoir inconditionnel. Tu nous donnes cette grâce de pouvoir vivre en toi, Seigneur. Et je suis tellement reconnaissant, Seigneur. Et j'aimerais que vraiment tu puisses nous remplir de joie, de reconnaissance, pour que l'on puisse se servir les uns et les autres. Tu vois qu'à travers ce confinement, on a vraiment besoin des uns et des autres. Moi, j'ai besoin de mes frères, j'ai besoin de mes sœurs, j'ai besoin de mon pasteur, comme eux, ils ont besoin de moi, Seigneur. Et je te prie pour l'Église de Saint-Maur, que tu puisses vraiment insuffler dans cette congrégation, à chaque membre, cette volonté de servir les autres, de mettre l'intérêt des autres avant ses propres intérêts, mettre le désir des autres avant ses propres désirs, mettre le besoin des autres avant ses propres besoins, afin que ton Église puisse être bâtie, édifiée, construite, Seigneur, afin que ton nom soit proclamé, Seigneur. Et c'est ma prière cet après-midi pour que tu sois honoré, Seigneur, malgré nos faiblesses, malgré nos péchés, malgré notre nature humaine, Seigneur. Et merci vraiment pour ton amour, merci pour ta grâce, merci parce que tu t'es humilié afin que nous puissions être élevés. Et en réponse à ça, je te prie que nous puissions maintenant, à notre tour, nous humilier, nous abaisser pour élever les autres et élever ton nom, au nom de Christ. Amen.